Cette quatrième émission évoque la période de votre vie comprise entre le printemps 1919 et la fin de l'année 1920, c'est-à-dire des premiers numéros de littérature et de votre retour à la vie civile, à votre rupture avec Dada. Quels étaient votre état d'esprit et vos ambitions en cette année 1919?
Tenez compte du fait que durant le printemps et l'été 1919, qui voit paraître les 6 premiers numéros de littérature, nous sommes loin d'être libres de nos mouvements. Je ne serai démobilisé qu'en septembre et Aragon quelques mois plus tard. Les pouvoirs d'alors se montraient soucieux de ménager une transition entre le genre de vie que la guerre nous avait fait connaître et celui que le retour à la vie civile nous réservait. Cette précaution n'avait rien de superflu. L'inévitable conciliabule des soldats de retour du front avait eu très vite pour effet d'exalter rétrospectivement les sujets de colère, sentiment de l'inutilité du sacrifice de tant de vies, grand compte à régler avec l'arrière, dont le fameux esprit jusqu'au boutiste était allé si souvent de pair avec un affairisme dépourvu de scrupules, brisement d'innombrables foyers, extrême médiocrité du lendemain. L'enivrement de la victoire militaire avait fait long feu.
Cependant, l'attitude générale n'était pas la révolte, mais plutôt l'apathie, il nous semble, à distance.
Il est vrai que la plupart d'entre eux en prirent assez vite leur parti. Peu à peu, ils se groupèrent en associations dont l'appareil eut vite fait de canaliser leur agitation, et d'ailleurs, même quand leurs intérêts se furent mis à diverger au possible, ils ne se départirent pas, en qualité d'anciens combattants, d'un minimum de solidarité d'ordre sentimental, ce qui ne manque pas d'humour à distance. En ce qui me concerne, délivré du joug militaire, je suis pour me dérober à toute nouvelle contrainte. Advienne que pourra.
Quelle est votre représentation de l'avenir à ce moment?
L'avenir est dénué de toute représentation pour moi. Il m'est difficile aujourd'hui de repasser par cet état d'esprit. Je tourne pendant des heures autour de la table de ma chambre d'hôtel, je marche sans but dans Paris, je passe des soirées seul sur un banc de la place du Châtelet. Il ne semble pas que je poursuive une idée ou une solution. Non, je suis en proie à une sorte de fatalisme au jour le jour, se traduisant par un avolo de nature plutôt agréable. Cela se fonde sur une indifférence à peu près totale qui n'accepte que mes rares amis.
Mais c'est cependant à cette époque que vous semblez prendre certaines résolutions, tout au moins en ce qui concerne l'orientation à donner à la revue littérature.
Oui, ce dont je ne tarde pas à me convaincre, c'est que l'orientation, qui a été celle des premiers numéros de littérature, a cessé de convenir. À quoi bon tenter plus longtemps cette synthèse impossible entre des éléments dont le rapprochement satisfait le sens de la qualité, mais qui n'auront jamais rien à faire les uns avec les autres? Il importe de réagir contre ce côté anthologique de la revue. Dans la voie qui se dessine alors plus spécifiquement pour la nôtre, Aragon, Soupeau et moi, nous n'en sommes plus réduits à nos seuls moyens. Entre-temps, nous avons rencontré Paul Éluard, et je suis depuis peu en correspondance avec Tristan Tzara.
Comment Éluard a-t-il été amené à se rapprocher de vous?
Éluard, avant de devenir le nôtre, est l'ami de Jean-Paul Lant, et il participera longtemps des préoccupations de celui-ci. Il cultivera sur le plan poétique ses savantes objections en matière de langage. Ce que dit Paul Lant et plus encore ce qu'il sous-entend, les arrière-pensées qu'il excelle à marquer, tout cela est à ce moment très près de nous.
Et que saviez-vous de Tzara avant de le rencontrer?
Tzara est encore à Zurich, où il mène grand tapage. Durant les années précédentes, l'activité dite Dada m'est restée assez floue. J'ai découvert les deux premiers numéros de Dada chez Apollinaire, qui les considérait d'un très mauvais œil, soupçonnant certains de ses rédacteurs de ne pas être en règle avec l'autorité militaire de leur pays, et allant jusqu'à craindre que le fait de recevoir une telle publication par la poste ne le compromît. Ces numéros gardent encore une certaine dépendance des recherches d'avant-guerre, cubistes, futuristes, bien que s'y manifeste déjà un fort esprit négateur en même temps qu'un parti pris extrémiste. Mais c'est seulement Dada III, parvenu à Paris au début de 1919, qui mettra le feu aux poudres. le manifeste Dada 1918 de Zara, sur lequel ce numéro s'ouvre, est violemment explosif. Il proclame la rupture de l'art avec la logique, la nécessité d'un grand travail négatif à accomplir, il porte au nu la spontanéité. Plus encore que ce qui est dit compte pour moi ce qui s'en dégage, à la fois d'excédé et de nerveux, de provocant et de lointain, de poétique aussi. Un peu plus tard, Zara dira « Je n'écris pas par métier et je n'ai pas d'ambition littéraire. Je serais devenu un aventurier de grande allure, aux gestes fins, si j'avais eu la force physique et la résistance nerveuse de réaliser ce seul exploit, ne pas m'ennuyer. » Ce sont de telles intonations qui alors m'intéressent si vivement à lui.
Il me semble que cette phrase de Zara pourrait être facilement signée par Jacques Vacher.
Il est évident qu'une telle attitude l'apparente de très près à Jacques Vacher, ce qui va m'amener à reporter sur Zara une bonne part de la confiance et des espoirs que j'avais pu mettre en Vacher. L'orientation de littérature va s'en trouver assez profondément modifiée. Sur ces entrefaites s'opère, du reste, venant de plusieurs points du monde, un mouvement de large convergence, entraînant le rapprochement et invitant à la confrontation d'attitudes qui, jusque-là, se sont définies indépendamment les unes des autres, mais ne laissent pas de présenter des points de contact nombreux dont on s'est encore peu avisé. Fondée durant la guerre en Amérique, poursuivant maintenant sa publication à Paris, la revue 291, puis 391 de Francis Picabia, a rappelé l'attention sur l'activité d'Arthur Cravant, poète et boxeur, se donnant pour le neveu d'Oscar Wilde, qui, aux approches de la guerre, éditait la petite revue « Maintenant » d'une verdeur de ton inconnue jusqu'à elle.
C'est à cette époque aussi, il me semble, que le rôle de Marcel Duchamp devient extrêmement important à vos yeux.
Oui, c'est également par Picabia qu'on a des nouvelles fort agitantes de Marcel Duchamp. Son évolution a été des plus singulières. Après avoir, de 1911 à 1913, apporter un tribut de toute originalité au cubisme et au futurisme dans des toiles désormais célèbres comme « Nus descendant d'un escalier »,« Le roi et la reine traversés par des nus vite ». Il a fait œuvre d'iconoclaste en signant des objets tout faits tels qu'un porte-bouteille, une pelle à neige, un urinoir, qu'il s'est fait fort de promouvoir ainsi à la dignité d'œuvre d'art par la seule vertu du choix. Avec une pire désinvolture encore, il a signé une reproduction en couleur de la Joconde après l'avoir ornée de moustaches. On le dit depuis plusieurs années, attelé à l'exécution d'une grande peinture sur verre, la mariée mise à nu par ses célibataires même, sur laquelle les détails manquent encore, mais qui débouche de tous côtés sur l'insolite, sur l'inconnu.
Picabia, à ce moment, s'agite beaucoup. Quelle est votre opinion d'alors sur sa poésie, sa peinture, son attitude ?
Picabia, qui vient de rentrer à Paris en passant par la Suisse pour connaître Zara, apparaît en effet monté au possible. Dans sa revue 391, il se prodigue contre les uns et les autres en pointe acérée, qu'il n'omet pas toujours de tremper dans le vitriol. En dehors de Zara, qui l'a visiblement conquis, il n'épargne tout à fait parmi les vivants que Duchamp, dont l'influence sur lui est alors très grande, et Georges Ribemont d'Essaigne, qui partage la plupart de ses points de vue. En dépit de ce que nous trouvons alors d'un peu exaspéré, d'un peu paroxystique dans son comportement, j'apprécie pour ma part non moins l'insolente liberté de sa poésie, 52 miroirs, l'athlète des pompes funèbres, que le goût de l'aventure pour l'aventure, que manifestent à un degré indépassable ses entreprises sur le plan plastique, Udni, jeune fille américaine, très rare tableau sur la terre, procession amoureuse et bien d'autres.
Ces précisions sur vous-même et vos amis mettent clairement en relief votre volonté révolutionnaire comme vos réserves. Elles nous permettront de mieux comprendre les raisons de votre adhésion à Dada et celle de votre rupture. Nous sommes toujours en 1919. Que connaissez-vous alors de Dada ?
À ce moment, on reste à Paris très imparfaitement informé de ce qu'a pu être le mouvement Dada à Berlin sous l'impulsion de Richard Hülsenbeck. Mais on ne tardera pas à en connaître une éclatante réaffirmation à Cologne celle-ci d'importance fondamentale, autour de Max Ernst. Le trait d'union entre l'esprit de Max Ernst et celui de Zara est fourni par Arp, qui a passé la guerre à Zurich avec ce dernier. Arp, dont les dessins et les bois sont sans doute à ce moment ce qui s'offre de plus libéré et de plus neuf, et dont alors en langue allemande, les poèmes sont aussi ce qui rend le son le plus original, le plus émouvant. Ce qui nous importe, c'est que le même courant se dessine dans les deux pays qui étaient hier ennemis. Il ne saurait à nos yeux trouver meilleure justification de lui-même. C'est, je le répète, la convergence de ces lignes qui décide de mon adhésion au mouvement Dada. Soupeau y accordera, comme à toute chose, moins d'importance. Aragon se montrera longtemps réticent. Dada, tel qu'il se formule dans le Manifeste 18, se trouve être ce qui répond à une forme de la nécessité d'alors, ce qui, historiquement, est de nature à lier, en vue de les surmonter, certaines objections capitales surgies, comme vous voyez, de toutes parts.
L'esprit Dada a-t-il dès lors une influence sur l'orientation de littérature ?
Si minée soit-elle par l'esprit Dada, la revue Littérature n'en reste pas moins relativement fidèle à sa formule initiale. Les artifices typographiques qui sont la principale coquetterie de Dada et de 391 n'y jouent aucun rôle. Les collaborations d'éléments, sinon hostiles au nouvel état d'esprit, du moins à l'abri de sa contagion, Valéry, Gide ou Max Jacob, Sandrard, Morand, s'y maintiendront jusqu'en février 1920, date de publication du 12e numéro. S'il y a effort de subversion, il faut le chercher sur un terrain autre que celui de Dada. Après la publication des poésies de Lautréamont, Littérature a entrepris celle des lettres de guerre de Jacques Vacher. Elle a, par dérision, sollicité de Jules Marie, l'auteur de Roger la Honte, ses souvenirs sur Rimbaud. Elle a entraîné le monde littéraire dans un traquenard qu'on n'a pas encore oublié, en ouvrant auprès des écrivains l'enquête « Pourquoi écrivez-vous ?» et en enregistrant, par ordre de médiocrité, leur réponse en grande majorité lamentable. Mais ce qui est bien autrement significatif. Ce sur quoi l'attention demande à être attirée une fois pour toutes, c'est que dans ses numéros d'octobre à décembre 1919, Littérature publie, sous ma signature et celle de Soupeau, les trois premiers chapitres des Champs magnétiques. Incontestablement, il s'agit là du premier ouvrage surréaliste et nullement Dada, puisqu'il est le fruit des premières applications systématiques de l'écriture automatique. Cet ouvrage est déjà achevé depuis plusieurs mois. La pratique quotidienne de l'écriture automatique, il nous est arrivé de nous y livrer 8 ou 10 heures consécutives, a entraîné de notre part des observations d'une grande portée, mais qui ne se coordonneront et ne tireront pleinement à conséquence que par la suite. Il est donc inexact et chronologiquement abusif de présenter le surréalisme comme un mouvement issu de Dada, ou d'y voir le redressement de Dada sur le plan constructif. La vérité est que, dans Littérature, aussi bien que dans les revues Dada proprement dites, textes surréalistes et textes Dada offriront une continuelle alternance.
Alors comment se présente donc, en ce début de l'année 1920, l'activité Dada proprement dite ?
Dans l'activité Dada, telle qu'elle se développe à Paris, je pense qu'on peut distinguer trois phases. Une phase de très vive agitation, suivant de près l'arrivée de Zara à Paris et sous sa dépendance directe, qui peut être comprise entre janvier et août 1920, sans grande reprise à la fin de cette même année. Une phase plus tâtonnante, tendant toujours à la poursuite des mêmes buts, mais par des moyens radicalement renouvelés, sous l'impulsion surtout d'Aragon et de moi, que je situe de janvier à août 1921. Enfin, une phase de malaise où l'essai de retour aux formes de manifestations initiales a vite fait de décevoir les derniers participants et où les dissidences se multiplient jusqu'en août 1922 qui marque la date d'extinction totale de Dada.
Comment se marque alors, selon vous, la rupture entre les deux phases de l'évolution du mouvement Dada ?
Eh bien, la rupture entre les deux premières phases que j'ai distinguées sera marqué, à mon avis, par la publication en août 1920 dans la Nouvelle Revue Française d'un texte de moi intitulé « Pour Dada » auquel répond un texte de Jacques Rivière « Reconnaissance à Dada ». Ce dernier texte, si réservé soit-il, porte un coup très dur à Dada en le mettant au bord de la consécration littéraire.
Aye, 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 aye. I want more.